Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h15, le petit déjeuner présidentiel. Ce matin, c'est Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, candidat à l'élection présidentielle.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour à vous.
La fin du ruissellement, voilà le roussellement. Votre campagne viande, vin, fromage, le SMIC à 1500 euros net, la France de la bonne paye, la bataille avec les insoumis, la défense du nucléaire et de la voiture, et les clins d'œil aux classes populaires de Marine Le Pen. Autant de sujets que nous allons essayer d'aborder, ainsi que le voyage de Macron également à Kiev et à Moscou hier. Avant d'aller quand même au fond des choses, Fabien Roussel, vous atteignez pour la première fois 3,5% dans notre sondage quotidien, le fameux Rolling avec IFOP Fiducial. Et d'ailleurs, vous grimpez, je peux vous le révéler, également dans le baromètre avec Paris Match, puisque vous gagnez plusieurs points également. C'est le baromètre qui sera publié aujourd'hui. Vous dépassez donc Anne Hidalgo, vous talonnez Jadot et Taubira, encore loin tout de même de Mélenchon. Qu'est-ce qui vous a fait un peu décoller? Alors pour l'instant c'est quand même relatif, mais selon vous, c'est votre petite phrase sur la viande?
Oh, je crois pas. Je pense que j'ai fait le choix dès le début d'incarner la France populaire, la France profonde, la France rurale, mais aussi celles et ceux, les jeunes, les familles qui vivent dans les banlieues. En fait, la France qui veut se faire respecter, qui veut faire respecter sa dignité. Cette France qui en a marre de bosser, de pas pouvoir vivre dignement avec malgré son travail et son salaire, ces retraités qui ont 900-950 euros de retraite et qui voient les factures de gaz, d'électricité augmenter, qui peuvent plus se payer un beefsteak, effectivement, qui sont obligés d'aller faire la queue d'aide alimentaire alors qu'ils ont bossé toute leur vie. C'est tout ça, quoi. En fait, je porte depuis plusieurs semaines cette France-là, qui est en colère, mais qui a envie que ça change. Parce que la colère, c'est une chose, le changement en est une autre. Et moi, je voudrais porter un changement profond de notre pays, et avec beaucoup plus de justice, beaucoup plus de justice sociale, c'est ça.
Et vous faites revenir un petit peu au bercail des électeurs potentiels qui étaient passés au Rassemblement National, par exemple, dans ces classes populaires?
J'entends des gens qui, effectivement, ont voté à l'extrême droite et qui voient bien qu'ils se trompent, ils ont pu se tromper de colère en votant pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite n'apporte pas de solution. L'extrême droite, elle oppose les gens entre eux en fonction de leur prénom, en fonction de leur couleur, et c'est pas ça qui va
arriver. Elle propose aussi des solutions. Elle met Marine Le Pen, elle met la retraite à 60 ans. Elle propose également augmentation du SMIC.
Elle
est sociale. Ouais.
Mais parlons-en. Ouais. C'est un drôle de social.
Quand Le Pen et Zemmour,
qui ont beaucoup de points communs dans leur programme, disent qu'ils augmentent le SMIC en baissant les cotisations sociales. En fait, en le faisant ça, il faut dire la vérité à vos auditeurs. En faisant ça, ils tuent la sécurité sociale. Ils la tuent. Parce que s'il n'y a plus de cotisations sociales, il n'y a plus de sécurité sociale. S'il n'y a plus de sécurité sociale, il faut que les gens savent que demain, s'ils ont un cancer, s'ils sont malades, ils vont devoir vendre leur maison, ils vont devoir faire un prêt pour aller se faire soigner, comme aux États-Unis. C'est ça. Et eux, ils sont sur un modèle libéral américain, à la Trump. On ne veut pas de ça en France. En France, on a un modèle social et on a une sécurité sociale, notamment, qui fait qu'on paye des cotises. Et ces cotises...
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop de charges, peut-être?
Même si notre sécu, elle a été vachement affaiblie ces dernières années.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on a des retraites trop faibles. C'est pour ça qu'on a une sécu qui rembourse pas tout et qu'on a des mutuelles qui augmentent. Mais malgré tout, on a une sécurité sociale qui nous protège. En revanche, il y a bien des charges qui pèsent sur les PME, sur les commerçants, les artisans que je défends. Il y a des charges qui pèsent sur ces boîtes. Et j'en parle. Je pense aux factures de gaz et d'électricité qui augmentent. Allez en parler au boucher qui chauffe son pain. Si sa facture de gaz et d'électricité, elle n'a pas triplé ou quintuplé pour le gaz. Je leur parle de leurs cotisations d'assurance qui ont augmenté ces dernières années, explosé même. Et puis quand il y a une pandémie... et qu'il y a des pertes d'exploitation et qu'on fait appel aux assurances.
C'est un peu comme l'assurance maladie, l'assurance sociale, ça augmente aussi pour les assurances dans le privé, comme ça a augmenté également dans le public, quoi. C'est un peu le même raisonnement.
Je parle des charges qui pèsent sur les assurances.
Eh bien,
je parle de celles-là.
Ouais.
C'est pour ça que je propose de nationaliser AXA, par exemple. Paf, on récupère le patrimoine, justement, des assurances et on fait en sorte qu'on ait une assurance publique qui fasse baisser les cotisations d'assurance et des gens, mais aussi des entreprises, et pour leur permettre d'investir, d'augmenter les salaires, de libérer de l'argent pour embaucher et mieux payer. Et puis, quand je parle justement d'augmenter les salaires et les pensions, quand les gens ils vont avoir 200 ou 300 euros de plus dans le porte-monnaie, eux, ils vont pas les planquer dans les paradis fiscaux. Eux, ils vont servir le pays, comme on dit. Ils vont le dépenser au quotidien, oui, dans les commerces, alors, pour aider leurs petits-enfants, pour changer de machine à laver et de frigo. Et là, j'en viens à l'industrie. Oui. Il faut relocaliser, produire ici ce dont nous avons besoin ici, que ça alimente une économie verte.
C'est là où il y a la bonne paye, hein, que vous avez défendue et que vous défendez encore. Mais cela dit, pour relocaliser, si sur les entreprises, il y a quand même des charges qui sont assez conséquentes, et si les salaires sont élevés ou plus élevé avec un SMIC à 1500 euros. Comment font les grandes entreprises face à la concurrence internationale pour pouvoir produire ici? Parce que c'est l'un des gros problèmes. Non, mais c'est aussi l'un des problèmes, vous le savez.
Non, mais vous avez raison. Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour les grandes entreprises. Ce sont celles qui, aujourd'hui...
Non, mais il y a les très grandes, mais il y a les intermédiaires.
Mais on parle de, moi, je vais vous parler des grandes entreprises, celles qui ont fait la une de la presse ces derniers jours, parce qu'en 2021, elles ont encore distribué des dividendes record à leurs actionnaires. 137 milliards d'euros de mémoire en 2021 en pleine pandémie.
Les boîtes du CAC 40 notamment.
Oui, mais par exemple dedans, mais faut en parler. Par exemple dedans, il y a Total. Enfin, on parle du prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. En fait, Total, il fait les poches des automobilistes pour pouvoir gaver des actionnaires. 15 milliards d'euros de dividendes en 2021. Vous ne pensez pas qu'ils pourraient baisser leurs dividendes et pour pouvoir baisser le prix de l'essence, quand même. On est en train de financer, de payer les dividendes des actionnaires. Ça commence à bien faire. À un moment donné, c'est aux politiques de reprendre la main sur l'économie et de leur dire basta, fini.
Et ce que vous dites, c'est pour les PME qui peuvent réindustrialiser la France, là, éventuellement, vous pouvez baisser des charges pour ces entreprises.
Pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises qui font le choix de relocaliser, qui font le choix de former, d'embaucher, d'augmenter les salaires. Pour toutes les entreprises qui font le choix de l'égalité salariale femmes-hommes, parce que nous sommes encore en retard là-dessus. Pour toutes ces entreprises vertueuses, oui, je suis pour que l'État accompagne. Je ne veux plus d'un État qui donne de l'argent public sans rien demander en échange, sans aucune contrepartie. En revanche, un État qui met l'argent public au service de l'industrie, de la bonne paye, de la formation, des cotisations sociales, à fond, pas de problème.
On va y revenir dans un instant, mais à la une encore ce matin, il y a les scandales de malveillance dans certaines maisons de retraite, des EHPAD. Après Orpea, c'est l'entreprise Korian. Première question, est-ce qu'on n'est pas à la rue en matière de contrôle, en fait, aujourd'hui? Et ensuite, quelles propositions pouvez-vous formuler?
Mais c'est même pas à la rue en matière de contrôle. Le contrôle, c'est une chose, mais d'abandonner nos aînés, nos parents, nos grands-parents, de les abandonner au marché privé, à des fonds de pension. Vous trouvez ça décent, vous? Depuis le début, nous, communistes, là, on le dit à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec mes collègues sénateurs, sénatrices, on le dit que la dépendance, l'autonomie des personnes âgées ne doit pas être confiée à des organismes privés à but lucratif. Ils se font du beurre sur le dos de nos aînés.
S'il n'y avait pas ces établissements privés aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées n'auraient pas de place dans les maisons de retraite, puisque en fait, dans le public, il n'y a pas de place.
Ces établissements, ils sont là. Il suffit de les récupérer, de les replacer, de les remettre sous...
Vous les nationaliser alors finalement,
mais
c'est
bien
ça?
Bien sûr, je suis pour un grand service public de la dépendance et de l'autonomie au service de nos aînés. Enfin, une société, une nation qui prend soin de ses aînés. Mais c'est une nation qui respecte tout le monde, qui respecte sa population. C'est le plus beau des projets qu'on doit avoir.
D'accord, alors admettons, Fabien Roussel, mais
ils sont là, les établissements existent. Il manque de personnel. Il faut baisser le reste à charge des personnes âgées. Donc les établissements existent. Nous proposons un grand ministère chargé des seniors. Qui pourra mettre en place ce grand service public du grand âge que nous voulons pour garantir l'autonomie et la prise en charge de la dépendance des personnes âgées? Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans va doubler, là, dans les 15 ans qui viennent. Mais on va continuer de confier nos aînés à des fonds de pension. D'ailleurs, les fonds de pension canadiens, ils viennent se faire du beurre sur nos aînés pour payer les retraites de leurs retraités à eux.
Comment vous faites pour financer
de nos grands-parents.
Et comment faites-vous pour financer? Parce que tout ça, ça a un coût.
Mais c'est justement à la charge de la solidarité nationale et à la charge de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est là pour prendre en charge justement les retraites.
Donc ça veut dire qu'on va encore augmenter les charges finalement.
Mais comment vous faites, vous, pour prévoir votre dépendance à vous? Un jour, vous serez peut-être...
Je mets un petit peu d'argent de côté.
Vous mettez un petit peu d'argent de côté tous les mois. Hein, 10, 15, 20 euros dans une assurance privée. Et si je vous proposais à la place que votre cotisation sociale, elle augmente peut-être d'un petit peu moins d'ailleurs, qu'elle augmente, que vous mettiez un petit peu moins que ce que vous mettez aujourd'hui, 10 euros, et que pareil, votre employeur, Sud Radio, je ne sais pas qui c'est votre patron, il en fasse autant de l'autre côté, mais que vous avez l'assurance, la garantie que demain, vous serez dans un établissement public, qu'on ne se fera pas du beurre sur vos épinards, et que vous aurez un salarié qui vous accompagnera, qui prendra bien soin de vous. Parce qu'il y a une souffrance de la part des salariés aussi, qui travaillent dans ces EHPAD et qui sont malheureux de ne pas avoir les moyens de bien accompagner les personnes âgées. Vous savez combien ils gagnent, les patrons d'Orpea et de Korian, les deux groupes privés, là? Vous savez combien ils gagnent? Ils gagnent près de 1 million d'euros par an de salaire. Et un salarié d'aide à domicile en emploi partiel sont à 700-800 euros net par mois.
C'est vrai.
Ils se foutent de notre gueule quand même, ceux-là.
Fabien Roussel,
ça devrait pas exister.
Quand vous parlez de cette préoccupation de la dépendance, comme évidemment aussi la voiture, est-ce que vous avez l'impression que justement vous parlez aux Français et non pas comme les grands médias nationaux et parisiens des sujets qui ne les intéressent pas? En clair, est-ce que vous parlez en fait à la France? Et d'ailleurs, vous avez commencé votre campagne par ce meeting à Marseille.
Mais parce que, je sais pas moi, mais je sais d'où je viens en tout cas, je suis ch'ti, je suis conseiller municipal à Saint-Amand-les-Eaux. J'habite dans une ville de 16 500 habitants, dans une ville qui a été dans un département très industriel, qui a perdu des usines, mais qui en a encore, qui est encore travailleuse, laborieuse, à l'image de Marseille aussi, qui est une grande ville, qui paye cher aussi le prix des abandons industriels, mais qui est une ville jeune, généreuse, qui a envie de bosser,
qui a
envie de taffer.
Donc, ce que vous dites, la politique, elle passe par le terrain, elle passe pas par Paris.
Mais bien sûr. Regardez où vivent l'essentiel des candidats à l'élection présidentielle. Et ils sont... il n'y en a pas un de province, quoi. Ou alors, ils sont de province comme moi, je suis Torero.
Donc, votre campagne, c'est la campagne de...
Et ceux qui disent qu'ils sont élus d'ailleurs, ce sont surtout... ils font du tourisme électoral. Enfin, excusez-moi, mais regardez. Hein, ils sont de province, ils sont pas de province, ils font du tourisme électoral.
Je vous comprends bien.
Ils se font élire ailleurs. Mais ils vivent pas là où ils sont élus. Moi, je suis le seul à vivre là où je suis élu. Je sais de quoi je parle.
Fabien Roussel, si je vous comprends bien, vous voulez déparisianiser en quelque sorte la campagne électorale, quoi, aussi,
exactement.
Et la France.
Exactement. J'ai commencé à aborder ce sujet à Marseille. Et vous faites bien de m'en parler. Je considère que ces dernières années, nous avons beaucoup métropolisé la France. On a donné et concentré les pouvoirs dans des grandes métropoles qui affaiblissent nos communes, les maires, les conseils municipaux. Et on a concentré dans ces métropoles des emplois, mais aussi densifier la population, beaucoup de monde, et on a déshabillé les communes rurales, les communes semi-rurales, semi-urbaines, et dans ces communes-là, dans la ruralité, il manque d'emplois. On ferme d'ailleurs encore des usines, je pense à la SAM, à Decazeville, c'est un territoire rural, on ferme une usine de 300 emplois, c'est la mort derrière. Donc, on déshabille ces territoires en emplois, on les déshabille en services publics, c'est là où on ferme des trésoreries municipales.
Mais Emmanuel Macron, par exemple, a réinstallé les maisons France Service. Parce que les auditeurs, là, vous ne vous ont pas vu et vous avez fait trompette.
On ferme des gares. On ferme des gares SNCF. On ferme des petites lignes. Ce n'est pas des maisons France Service qui vont remettre des trains dans la ruralité. En fait, et pire que ça, les gens qui ont une voiture... et qui, aujourd'hui, pouvaient encore aller dans ces grandes villes. Je pense aux grands-parents pour aller voir leurs petits-enfants. Je pense à ceux qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils travaillent la nuit. Y a des métiers comme ça. Eh bien, ils ne pourront plus l'utiliser. Parce que s'ils ont une voiture polluante de critères 3, 4, 5, à cause de ces fameuses ZFE, ils ne pourront plus rentrer dans ces 45 métropoles. Ils seront assignés à résidence. Eh bien, moi, je voudrais que l'on lutte pour la qualité de l'air, mais sans taper sur les classes populaires.
Bah oui, mais
et donc,
que...
eh bien,
C'est là où Yannick Jadot n'est pas d'accord, en fait, bah, avec
non,
vous.
Non, on n'est pas d'accord. Ça,
ah non, vous n'êtes pas d'accord avec pas Yannick Jadot.
Non, on est,
pas,
bah, on est différent. Voilà. Ouais. Il est vert, je suis rouge. Ouais. Et donc, on n'est pas d'accord. Ouais. Et donc, on est différent dans le sens où nous nous proposons pour lutter contre la pollution qui fait plus de 40 000 morts par an. Mmh. Donc, il faut s'attaquer à ça. Mmh. Mais le faire en aidant les gens. Mmh. Comment on fait pour transformer, pour permettre à un ouvrier, à une enseignante, à un retraité qui a une petite pension, d'avoir une voiture propre en échange de sa voiture polluante. C'est pour ça que je propose une prime à la conversion d'une voiture polluante en voiture propre de 10 000 euros, de 10 000 euros pour pouvoir acheter une voiture d'occasion propre. Regardez sur le Bon Coin, vous trouvez des voitures propres de critères 1 et 2 à 12 000, 13 000, 13 000 euros. Et donc, un retraité qui a une petite pension, il peut acheter une voiture propre, il lui restera 2 000 euros à charge, c'est gérable.
Ça, par c'est contre, votre image écolo, quoi.
Ah, moi, je suis écolo-coco. Écolo-coco. Non, écolo-coco, c'est-à-dire écolo-populaire.
Ouais.
Écolo-populaire. Ouais. Je veux
contre,
faire...
Alors que Yannick Jadot n'est pas populaire.
Je suis...
Il n'est pas écolo-populaire.
Non, je critique pas Yannick. Je défends mon programme, ma vision de la France. Mmh. Et moi, je veux faire une France populaire qui tient ses engagements climatiques parce que nous sommes dans la décennie où tout doit changer, effectivement, dans nos modes de production, dans nos modes de circulation, dans nos modes de consommation. Mais on doit le faire avec tout le monde. Et c'est bien facile pour ceux qui ont tout, hein, qui vivent à Paris, qui ont des bons salaires, et qui disent à ceux qui n'ont rien comment ils doivent manger, comment ils doivent circuler, comment ils doivent se comporter, comment, dans quelle maison ils doivent habiter. Ça va, hein. Donc, bon. Que tout le monde ait accès au même droit,
Fabien Roussel,
au beau, et à des voitures propres.
Vous restez avec nous, on vous posera encore un certain nombre de questions tout à l'heure. Juste un dernier mot quand même sur une question d'actualité. Avec le retour en prison hier soir de Patrick Balkany, est-ce que sa place est vraiment en cellule?
Bah, c'est injusticiable comme tout le monde.
Oui.
Enfin, excusez-moi, c'est injusticiable comme tout le monde. Comme tout le monde, il a le droit à des aménagements de peine. Comme tout le monde, il a le droit au bracelet électronique. Et donc...
Mais il n'a pas respecté, c'est ce que vous dites. Donc,
Écoutez, je vais vous avouer sincèrement, mais le plus sincèrement du monde, que je n'ai pas suivi les pérégrinations de la famille Balkany de ces derniers trois jours, et je ne sais pas où ils en sont.
Il a dormi en prison, Patrick Balkany, pas son épouse.
Je sais qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture et jusqu'au coude.
Ouais.
Donc après, c'est tout. Et ils doivent,
pas de mansuétude, malgré l'âge ou quoi que ce soit.
Mais
non.
Pas plus, pas moins. On doit tous être égaux vis-à-vis de la justice. Et donc, c'est tout. Et je suis aussi pour les aménagements de peine, quand c'est nécessaire, enfin, ça va. Mais pas plus, pas moins.
Voilà. Merci. Allez, Fabien Roussel, vous restez avec nous, la revue de presse, dans un instant. Et ensuite, vous allez répondre de nouveau à nos questions, à celles des éditorialistes et puis à celles des auditeurs. 0826-300-300. Il y a encore beaucoup, beaucoup, évidemment, de thèmes et de questions.
Restez avec nous, 8h33.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h47, les grands débats ce matin, en présence de Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, candidat à l'élection présidentielle. Vos appels 0826-300-300, nos éditorialistes du jour, Elisabeth Lévy, Eric Revel et Lydia Guirous.
Oui, pour vous poser des questions, Fabien Roussel, dans un instant. Juste avant, quand même, Fabien Roussel, il y a beaucoup de réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux, et certains se disent, mais pourquoi pas une alliance, tout de même, en fait, à gauche, avec Anne Hidalgo? Peut-être, ou alors avec Jean-Luc Mélenchon.
Mais j'ai jamais fermé la porte à ce que les forces de gauche et le représentant des différentes sensibilités qui s'expriment à cette élection présidentielle s'unissent et demain participent à un gouvernement ensemble pour mettre
mais dans un premier temps pour la présidentielle.
D'ailleurs, nous le faisons dans des grandes villes, dans des collectivités, nous travaillons ensemble. Et nous, communistes, nous n'avançons pas avec des œillères, avec sectarisme. Et nous travaillons autant avec des insoumis, avec des écologistes qu'avec des socialistes, contrairement à d'autres qui disent « moi jamais avec lui », etc. On a toujours eu la main tendue pour tous. À l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un projet, d'une personne avec la France. Et donc, on a besoin au premier tour que cette rencontre puisse se faire et que les Français puissent choisir. Vous avez vu les différences que j'ai portées pendant la campagne depuis le début.
Ouais.
Je suis quand même le seul.
Ouais.
C'est comme ça.
Bon, Jean-Luc Mélenchon a eu aussi ses différences.
Je suis le seul
etc.
à parler du besoin d'énergie nucléaire à côté des énergies renouvelables.
Ouais.
Je suis le seul à défendre un revenu du travail et une France de la bonne paye et pas une France du revenu universel. Et donc, vous voudriez quoi que j'efface tout ce que j'ai pu dire.
Non, mais si Anne Hidalgo, par exemple, Davis, elle pourrait, pas question d'une alliance avec vous, venir avec vous. Un peu comme ça existe à la mairie de Paris. Hein. Je rappelle que Yann Brossa est quand même son premier adjoint.
J'avance les bras ouverts.
Bon, d'accord. Voilà,
j'avance les bras ouverts.
Allez, 0826, 300.
J'ai même une chemise rose aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
C'est tout, je ne peux pas faire plus.
0826, 300. Claude de Perpignan est avec nous.
Bonjour, Claude.
Bonjour, Fabien Roussel. Là, je viens de vous écouter. J'ai retrouvé les fondamentaux des programmes du Parti communiste, hein, pour l'essentiel. Mais je vous avais aussi écouté à Marseille, et il y a des points dont vous n'avez pas reparlé ce matin, qui me paraissaient quand même intéressants. Alors, bon, sur la transition énergétique, je suis content que vous défendiez le nucléaire. Moi, je suis partisan de cette position. J'ai entendu aussi ce que vous avez dit sur l'école dans votre présentation de l'école sans devoir à la maison. Ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que dire au fond, mais est-ce que vous allez plus loin? C'est-à-dire, est-ce que vous allez aussi sur la remise en cause des méthodes qui font que, indépendamment des devoirs à la maison, le niveau a baissé parce que les enseignements passent plus mal? Est-ce que vous êtes partisan de faire exploser le mammouth, c'est-à-dire de décentraliser l'école, de donner plus de responsabilités aux chefs d'établissement dans la constitution de leurs équipes pédagogiques? Voilà. Alors ça, c'est sur l'école. Il y a un autre point dont je ne vous ai pas entendu parler, mais je n'ai pas tout entendu à Marseille, c'est les 35 heures. On sait qu'elles ont désorganisé l'hôpital. Est-ce que si vous accédiez au pouvoir, vous supprimeriez les 35 heures en laissant la négociation au niveau des services, des établissements, des entreprises?
Claude, attendez, ça fait trois questions là, Claude. Là, il va essayer de vous répondre.
Merci.
Alors, finalement, il y a un trait commun quand même avec tout ça, c'est la gestion aussi par localement, quoi. Ce que dit en fait un peu un peu Claude. Hein.
Oui, il faut faire confiance à ceux qui travaillent et ceux qui sont à la base, que ce soit les enseignants ou que ce soit les salariés dans les entreprises. Qui mieux qu'un salarié dans une entreprise, dans une usine, pour trouver les meilleures conditions de travail, pour produire le mieux possible et que lui se sente bien dans son atelier, sur son lieu de travail. Donc il faut faire confiance. Les salariés, pour nous, n'ont jamais été un problème, ça a toujours été la solution. Concernant l'enseignement, oui, nous voulons lutter contre les inégalités de l'école publique en faisant en sorte que les enfants n'aient plus de devoirs à faire à la maison. Nous voulons que tous les devoirs soient faits à l'école. C'est aussi une libération pour les parents, mais c'est aussi important pour les enfants, parce que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir une chambre à eux et un bureau pour étudier. Tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent leur payer des cours privés ou peuvent les aider à faire leurs devoirs. Donc la meilleure solution d'égalité, c'est que tout soit fait à l'école. C'est pour ça que je propose que les enfants passent plus de temps à l'école. On va augmenter le temps d'enseignement de quelques heures. Mais je leur garantis que tout sera fait.
Et en un mot, sur les 35 heures à l'hôpital.
Mais sans augmenter, je le dis parce qu'il y a des enseignants qui doivent m'écouter, sans augmenter le temps d'enseignement, le temps de travail des enseignants. Et c'est pour ça que je propose de pré-recruter, de former et d'embaucher 90 000 enseignants, parce que former des enseignants, embaucher des enseignants, construire des écoles pour qu'il ne soit pas plus de 20 à 25 élèves par classe, c'est le plus beau projet qu'on puisse avoir pour un pays, de mettre le paquet sur l'école, sur l'enseignement et sur nos enfants.
Ouais, et les 35 heures à l'hôpital ? Vous êtes prêt à les remettre en cause et puis à ce qu'il y ait une organisation locale ?
Alors, je suis, moi, pour baisser le temps de travail dans les différentes professions où, justement, le travail est pénible, difficile, et qu'on le fasse par filière, qu'on prenne le temps de le faire. Donc, ce n'est pas un couperet qui mettra la semaine de 4 jours, la semaine à 32 heures. Je veux qu'on y travaille et écouter les soignants, écouter les infirmières. D'abord, aujourd'hui, elles ont des millions d'heures supplémentaires qu'elles ne savent pas éponger. Il y a besoin, là aussi, d'embaucher dans l'hôpital et d'améliorer leurs conditions de travail, parce que ce sont des métiers essentiels. Un trader, ça ne sert à rien, mais une infirmière, on en a besoin, et on a surtout besoin qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions, parce que c'est elle qui vient nous soigner.
Question, ça file, Cécile.
Fabien Roussel, quand on est de gauche et qu'on soutient fermement la police, Charlie Hebdo, Samuel Paty, la chasse, la bonne bouffe, le nucléaire, il faut du courage politique ?
Ah ben c'est sûr que là je mets les pieds dans le plat, que je m'attaque à des sujets qui font débat, sensibles. Alors la viande c'est une chose, mais c'est pas là-dessus. Enfin, j'espère qu'on va pas s'affronter là-dessus quand même. Quand on parle de Charlie Hebdo, quand on parle de ces caricaturistes, de ces dessinateurs de presse, de ces journalistes tués parce qu'ils défendaient une opinion quand même. Ils avaient une opinion profondément laïque, profondément républicain, profondément humaniste, antiraciste. Ils se battaient pour que l'on vive tous ensemble, quelles que soient nos confessions, nos religions, nos différences. Ils ont été tués parce qu'ils ont caricaturé.
Mais pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'on a le droit de bien manger aujourd'hui, la police, le nucléaire, pourquoi on n'a pas le droit de le dire ça aujourd'hui ?
Ah ben c'est parce que, non, mais c'est parce qu'il y a quelques excités quand on tient des propos comme ça, c'est extrêmement regrettable. C'est la violence d'ailleurs que je dénonce dans la vie politique, c'est que je me suis fait, quand je dis que je suis par exemple pour l'énergie nucléaire, parce qu'on en a besoin pour réindustrialiser la France, on m'a traité de raciste et d'extrême droite. Alors, j'ai même pas vu le lien. Ouais. Je comprends même pas. Des fois, c'est irraisonné, c'est déplacé. Et c'est pas comme ça qu'on devrait avoir
un débat.
Allez,
on y reviendra tout à l'heure. Question d'Elisabeth Lévy avant Lydia Guirous. Elisabeth.
Oui, bonjour Fabien Roussel. Je vais un peu poursuivre la question de Cécile. Et il me semble quand même que vous avez fait prendre un tournant au Parti communiste, parce qu'on l'a connu dans les années précédentes, très indigéniste, défilant aux côtés d'islamistes contre l'islamophobie. Donc est-ce que vous avez fait le ménage ? Est-ce que c'est un nouveau Parti communiste avec vous ?
D'abord, je fais pas le ménage. Enfin, quand je le fais, c'est chez moi. Et sinon,
bravo, dis, ça vous honore.
Quand je dis chez moi, c'est pas que, enfin, chez moi je nettoie, c'est ça que je veux dire. Comme si chez moi je coupais des têtes. Non, mais est-ce que non, madame, je pense que moi je suis fier aussi des combats menés toutes ces années par ma formation politique. Aujourd'hui, je rendrai hommage d'ailleurs aux 9 morts du 8 février 62 à Charonne. Ceux qui ont manifesté contre les attentats de l'OAS et pour soutenir le mouvement national algérien qui luttait pour son indépendance. Oui. C'est la fierté. Oui, mais c'est la fierté aussi.
Mais moi, je vous ai parlé de la marche sur l'islamophobie qui a eu lieu il y a quelques années. Hein, ouais, pas de Charonne, pardon.
Ben oui, mais l'histoire de mon parti, c'est que nous étions les seuls à ce moment-là à manifester pour l'indépendance du peuple algérien et pour l'indépendance des peuples dans le monde contre la colonisation. Nous sommes de ce côté-là de la barricade et nous l'avons toujours été. Et c'est surtout cela qui m'honore. Ouais. Maintenant, il y a eu des débats ces dernières années. Je suis moi pour les affronter sereinement, sans s'invectiver, sans se traiter, sans...
Question de Assa
Traoré. Est-ce que vous soutiendrez encore Assa Traoré ? Vous l'avez soutenu à un moment donné,
oui,
des tweets.
Mais parce que, enfin, mettez-vous à la place d'une famille qui perd un enfant, un frère, et qui souhaite à chaque fois qu'il y ait des expertises et des contre-expertises pour que l'on connaisse la vérité, les responsabilités, pour que tout cela ne se produise plus. Je partage ce combat pour la vérité, pour la justice. Excusez-moi, mais j'en reviens à Charonne.
Mais aujourd'hui...
C'est le même combat qui est mené de la part des familles de ces 9 personnes tuées ce jour-là et qui veulent la vérité et la justice.
Oui. Question de Lydia Guirous avant 9h, et puis on viendra aussi sur d'autres questions telles que le voyage aussi d'Emmanuel Macron à Belfort, jeudi.
Oui, j'ai revu récemment une vidéo, la fameuse vidéo de Georges Marchais et ses déclarations sur l'immigration. Il disait qu'il fallait stopper l'immigration officielle et l'immigration clandestine, puisqu'à l'époque, il y avait 2 millions de Français et d'immigrés qui étaient au chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pour qu'on stoppe l'immigration alors que nous sommes à 5 millions de chômeurs ?
Non, parce que ça n'a rien à voir. Et ce qu'a pu dire Georges Marchais à l'époque, c'était le début...
Même si nous avons beaucoup plus de chômeurs.
C'était le début du chômage en France et il a tiré un trait d'égalité entre immigration et chômage. Et je ne tirerai pas ce trait d'égalité aujourd'hui en France. Parce que quand on ferme l'usine Bridgestone chez moi dans le Nord, pour aller la délocaliser en Hongrie avec l'argent de la Commission européenne, les responsables, c'est pas les immigrés. Les responsables, c'est la Commission européenne qui finance des délocalisations. Et donc, le problème du chômage aujourd'hui, je trouve ça injuste, inadmissible et même dangereux de faire porter le poids du chômage sur le dos de l'immigration. Et d'ailleurs, en pleine période de pandémie, quand on a dû faire appel à des médecins issus de l'immigration, quand on a dû faire appel à des anesthésistes, quand on a dû faire appel à des anesthésistes, à des radiologues, spécialistes en réanimation, parce que justement, on n'en a pas formé assez en France. Alors on dit quoi ? On dit que ces immigrés-là, on n'en veut pas, ou on a été bien contents de pouvoir compter sur eux et sur la fraternité que l'on peut avoir avec des salariés, des travailleurs de toutes origines. Moi, je ne veux pas regarder la couleur, la confession, le prénom.
Vous pensez
comme
que Georges Marchais le faisait ?
Mais quand il a dit ça, je le dis, il a commis une erreur d'analyse, et nous le disons aujourd'hui, je le dis, parce que faire un trait d'égalité entre chômage et immigration, c'est faire une mauvaise analyse. En revanche, on peut parler. Parlons de la concurrence qui existe en Europe entre les travailleurs. On met en concurrence le travailleur français avec le travailleur polonais, ce fameux plombier dont on a parlé à l'occasion du traité constitutionnel que nous avons combattu en 2005. Quand on met en concurrence les travailleurs en fonction de leur fiche de paye pour tirer par le bas le salaire français, les conditions de travail des salariés français, c'est inadmissible. Et je combats ça. Ça crée du racisme, ça crée de la division, et je n'en veux pas. Oui. Je suis pour respecter les droits des travailleurs français et les droits de tous les travailleurs qui travaillent en France.
Fabien Roussel, vous restez encore avec nous un bon quart d'heure. On se retrouve dans un instant, juste après le journal. Éric Revel aussi pour sa chronique. Et on parlera aussi d'Emmanuel Macron. Peut-être, tiens, aussi, parce que vous avez parlé d'immigration, d'Éric Zemmour, dans un instant.
À tout de suite. Restez avec nous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans quelques instants, Fabien Roussel toujours avec nous. En attendant, Revel en campagne.
Sud Radio présidentielle 2022.
Oui, bonjour Éric Revel.
Bonjour Éric Revel et bonjour Fabien Roussel qui va réagir évidemment. Discussion marathon hier entre Poutine et Macron sur la sécurité en Europe et l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut retenir ?
D'abord, on peut retenir qu'il y a eu 5h30 d'entretien à Moscou entre les deux, entre Poutine et Macron. Une conférence de presse vers 22h, vers 22h15 hier soir, qui était le point d'orgue d'une journée donc marathon. Avec un seul but officiel, préserver la paix en Europe et éviter que la question ukrainienne ne dégénère en crise militaire. Alors rien n'est réglé, mais on a senti qu'il y avait une volonté commune d'avancer sur le dossier ukrainien. Macron a parlé d'éléments de désaccord relatifs et de points convergents. Bon, c'est le en même temps. Et Vladimir Poutine, lui, a loué les idées intéressantes de la France et des discussions utiles.
Oui, c'est ça. Alors Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en fait en Ukraine pour essayer de faire avancer ces discussions.
Oui, alors chacun évidemment défend ses intérêts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Charles de Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors au plan international, président en exercice de l'UE, Macron défend évidemment une vision de paix en Europe, s'inscrivant dans une tradition diplomatique que je qualifierais de gaulo-mitterrandienne, là où Poutine évidemment défend sa zone d'influence. Dans un monde qui est devenu, vous le savez, multipolaire, plus dangereux pour tous qu'à l'époque de la guerre froide entre Américains et Soviétiques, où le monde bipolaire, finalement, de l'époque était plus clair. Alors aujourd'hui, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, et puis il y a la petite, inexistante Europe qui défendent tous leur avenir.
Alors, ces discussions sont menées par Emmanuel Macron, donc président, évidemment, de l'Union européenne, mais aussi futur candidat.
Oui, bien sûr. Alors cette séquence, elle est replacée aussi dans la campagne présidentielle française. Emmanuel Macron, qui a bien du mal souvent à incarner la fonction présidentielle, trouve avec sa tournée à Moscou hier, à Kiev aujourd'hui, vous l'avez dit, et à Berlin aussi, il va rencontrer le nouveau chancelier allemand, il trouve l'occasion, pense-t-il en tout cas, de grandir sa stature présidentielle et son statut de chef de l'État. Emmanuel Macron ne devrait plus tarder d'ailleurs à entrer en campagne, mais attention, les sujets internationaux ou diplomatiques, alors que la question du pouvoir d'achat est la première question des Français, toutes ces questions internationales diplomatiques n'ont jamais été décisive pour les Français au moment de choisir leur président. Et puis, il faut se souvenir aussi, hein, le mot asséné par Emmanuel Macron au moment de la, de moment critique de la crise sanitaire, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, résonne évidemment étrangement lorsqu'il va tenter d'affirmer peut-être qu'il a réussi à éviter une guerre en Europe, parce que oui, les mots perdent de leur vérité lorsqu'on les utilise à mauvais escient.
Merci Eric Revel. Fabien Roussel, il doit véritablement se déclarer là aujourd'hui, Emmanuel Macron, ou alors il continue de mener les affaires de la France en fait à l'étranger, de l'Union européenne et puis en France.
Mais bien sûr qu'il doit se déclarer et qu'il accepte de participer au débat avec les Français. Et qu'il dise ce qu'il fera demain s'il est président de la République, comme chacun d'entre nous. Moi, j'ai dit ce que je ferai dans les 6 mois qui suivra l'élection présidentielle si je suis élu. J'en mettrai les salaires, je mettrai la retraite à 60 ans, par exemple. Et lui, il faut qu'il dise. Il faut qu'il dise que s'il est élu président de la République, que dès le mois de juillet, il mettra à l'ordre du jour une réforme des retraites pour allonger le départ en retraite des soignants, des enseignants, etc., etc. Il va mettre, encore une fois, le pays à feu et à sang. Mais qu'ils le disent. Et que les Français puissent au moins voter en connaissance de cause. Et que l'on puisse véritablement faire en sorte qu'ils ne soient pas réélus. Parce qu'on a vécu un quinquennat dur, dur pour le monde du travail, dur pour les salariés.
Il y a eu des circonstances aussi, peut-être, non, avec le Covid et puis.
Non, mais les gilets jaunes, c'était pas le Covid, hein, quand même. Hein. Non, mais il faut se souvenir. Pourquoi la taxe carbone, la hausse de la CSG, la suppression des 5 euros sur les APL dès les premiers mois de son élection? Faut qu'il dise, justement, ce qu'il ferait s'il était réélu. Est-ce qu'il va encore taper sur les allocations, sur les APL, tous les salariés du public comme du privé, en leur demandant de travailler 5 années de plus, alors qu'aujourd'hui, vous avez vu, là dans l'Essonne, ce salarié de 63 ans qui est mort au travail d'une crise cardiaque. Et ça n'a rien à voir avec Amazon. Mais qu'est-ce qu'on fait à 63 ans à encore faire des métiers pénibles, alors qu'on devrait être avec ses petits-enfants ou de s'occuper de sa femme ou de son homme? Oui. Mais enfin, oui. c'est pas une vie, ça.
Fabien Roussel, deux mots aussi sur le voyage jeudi d'Emmanuel Macron à Belfort, puisqu'il va officialiser la vente de la branche nucléaire de General électrique à EDF. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que ça revienne dans le giron français, et est-ce que ça participe à une promesse en fait de campagne de réindustrialisation?
Oui, écoutez, là c'est encore une fois, il faut que les Français soient au courant de ce qu'a fait ce Macron candidat. Oui, parce que quand il était conseiller de Hollande, c'est lui qui dit qu'il faut vendre la branche électrique d'Alstom à General Electric. Et puis, 6 ans après, c'est lui qui dit, tout compte fait, c'était une boulette. Et donc, il faut reprendre General Electric. Hein, un coup bic, un coup bouc. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'est pas constant dans sa politique. Eh bien, ça, on doit le dire. On doit avoir une politique industrielle constante, planifiés, qui permettent de retrouver la maîtrise de nos outils industriels, et notamment dans la filière nucléaire, car nous en avons besoin.
Il a lancé le chantier en tout cas d'installation de nouveaux EPR. Vous êtes d'accord avec lui pour ça?
Oui, nous devons investir et rapidement dans la construction de nouveaux réacteurs qui viendront s'ajouter à ceux existants. Je le dis parce que il faut pas faire peur aux Français avec cette énergie-là. Nous n'allons pas créer de nouvelles centrales dans des lieux.
Là,
aujourd'hui,
vous êtes en plein désaccord avec Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais le désaccord que j'ai avec le président de la République, c'est que je souhaite, moi, avoir une entreprise publique, EDF, qui investira dans la production d'énergie nucléaire, mais qui en trouvera surtout la maîtrise, qui en aura la maîtrise pour pouvoir fixer les tarifs, pour pouvoir raccorder tout le monde sans tarifs excessifs, pour avoir une électricité la moins chère. Et c'est important pour nos entreprises, parce que quand on veut réindustrialiser la France, quand on veut faire revenir des usines pour produire des voitures, des frigos, des machines à laver, hein, elles vont pas tourner ces usines avec des pédalos. Il va bien falloir avoir des turbines nucléaires pour leur apporter une électricité non seulement pas chère, mais aussi décarbonée. Et je pense qu'en faisant ça,
nous aurons un avantage compétitif avec d'autres pays de l'Union européenne. C'est aussi comme ça qu'on va réindustrialiser le pays.
Question à Éric Revel.
Alors Fabien Roussel, moi je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis le début de ce petit déjeuner présidentiel sur Sud Radio. Vous avez abordé plein de sujets. J'allais dire, vous incarnez une sorte de fraîcheur positive dans cette campagne électorale. Vous retrouvez les accents populaux du Parti communiste français. D'ailleurs, peut-être que sur vos affiches, il y aura comme en 1980 ou 90, produisons français. Vous voyez,
on revient
à cette idée-là, oui. Parce que vous avez pu constater évidemment que votre électorat populaire est parti depuis longtemps au Rassemblement national, populaux, mais aussi Fabien Roussel, démago. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, vous faites un certain nombre de mesures. Vous avez dit un certain nombre de choses. Par exemple, vous dites tout à l'heure, les pétroliers se gavent. Mais en fait, le prix du litre d'essence, il n'est pas dû au coût de la distribution de l'essence en France. Il est dû à la fiscalité de l'État que vous voulez grossir un peu plus. Vous parlez d'un SMIC à 1500 euros. Très bien. Est-ce que vous êtes certain que les PME ou que les TPE françaises peuvent financer une telle augmentation
du
SMIC ?
Comment ?
Vous dites 90 000 embauches d'enseignants. Très bien. Comment est-ce que vous financez 90 000 postes d'enseignants alors que la dette française est à 2900 milliards d'euros.
Parce qu'il y a
la retraite à 60 ans, combien d'annuités ? Vous voyez, il y a beaucoup de questions.
Non,
c'est pas à charge. Je vous pose des questions, vous écoutez avec intérêt. Donc, populo, évidemment, et pour l'instant, ça vous porte plutôt dans les sondages, modestement, mais ça vous porte. Vous redonnez un souffle au PCF, ça c'est vrai. Mais toutes ces questions-là, populo, mais j'ai rajouté démago.
Oui, et bien, je suis pas d'accord.
Ah bah, forcément.
Si vous aviez démago, si vous aviez écouté tout l'interview.
Ah bah j'ai écouté tout
l'heure
depuis 8h15.
Vous écouterez le replay. J'ai fait part de mes propositions pour soutenir les entreprises et comment l'État accompagnera les entreprises pour qu'elles puissent relocaliser, former, mieux rémunérer. Et donc, nous les accompagnerons, mais je ne veux plus qu'on donne de l'argent public à des entreprises sans rien leur demander.
Mais vous ne répondez pas à mes questions concernant le SMIC, sur l'embauche de 90 000 enseignants,
la fiscalité
sur les pétroliers
sur l'essence,
qui se gavent,
la fiscalité sur l'essence. Oui, c'est à l'État d'assumer sa part, de baisser la fiscalité sur l'essence, parce que sur le prix du litre d'essence, 60% c'est de la taxe et c'est de la TVA. Mm-hmm. Et l'État doit aller récupérer cet argent auprès de compagnies comme Total qui distribuent 15 milliards d'euros de dividendes. 10 centimes de baisse de taxes, c'est 5 milliards d'euros. Et là, Total, ils viennent d'en distribuer 15. Donc déjà, vous voyez, je vous ai trouvé 30 centimes de baisse de taxes sur l'essence. Ensuite, 90 000 enseignants.
Oui.
C'est démago de dire que...
Ça coûte combien, 90 000 enseignants avec un salaire chargé ?
C'est démago de dire...
Non, mais je vous demande, comment est-ce que
vous
financez ça ?
C'est démago de dire qu'un pays doit investir dans la formation de ses enfants et que nous allons trouver l'argent. Nous allons trouver l'argent, nous allons augmenter le budget de l'État pour répondre à ces beaux défis. Et l'argent, je vais aller le trouver en allant taper dans les bénéfices de ces multinationales qui payent moins d'impôts qu'une PME. Mais vous le savez autant que moi.
C'est le vieux discours du PCF, il n'y a qu'à prendre... Il y a plein de salariés qui sont actionnaires et qui ont des dividendes.
Pas ça, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas Google à l'époque de marché, d'accord ? Les GAFA aujourd'hui payent entre 5, 6, 7, 8% d'impôts, alors que nos PME, elles en payent 15 ou 20.
Mais je souhaite que ces grosses boîtes payent. C'est le manque d'harmonisation fiscale européenne. Si Google s'installe en Irlande, c'est parce qu'il y a un impôt sur les sociétés qui est moins élevé.
Il
n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe. Ce n'est pas le candidat du PCF qui va le changer, cette harmonisation.
Allez, laissez répondre Fabien Roussel.
Une proposition.
Oui.
Je demande de mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, parce que le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant que leurs bénéfices partent dans les paradis fiscaux, c'est possible. On a su le mettre en place pour chacun d'entre nous. Nous, on paye nos impôts avec le prélèvement à la source. Eh bien, mettons-le en place pour les bénéfices des multinationales avant que le pognon, qui est notre pognon, celui de nos richesses, celui des travailleurs et des salariés, avant que cet argent parte au Luxembourg et aux îles Caïmans, eh bien, moi, je veux qu'ils payent leurs impôts là-dessus. Et ça, ça va faire rentrer des dizaines de milliards d'euros dans les caisses de l'État et ça nous permettra de payer des professeurs, des infirmières, des médecins. Et c'est le plus beau projet que j'ai pour la France.
Monsieur Roussel, vous augmentez l'impôt sur les sociétés et c'est en incohérence totale avec votre volonté de réindustrialiser la France, parce que si vous augmentez l'impôt sur les sociétés, bah les sociétés elles vont tailler la route ailleurs.
Archi pas, parce que je baisse le prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, parce que les entreprises, je les accompagne en baissant le prix des assurances, et parce que les entreprises, je les accompagne avec le prêt bonifié. C'est-à-dire que, contrairement au PGE, nous, l'État, moi, président de la République, nous leur accorderons des prêts à taux négatifs. Ça veut dire qu'ils ne rembourseront pas la totalité des sommes empruntées pour pouvoir leur permettre d'investir, d'industrialiser et de répondre aux besoins.
Allez, dernière question au 0826-300. Oui, c'est Nathalie qui attend depuis un petit bout de temps.
Et bonjour Nathalie. Des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour madame, bonjour messieurs.
Oui.
Alors, je
bonjour,
voulais
madame.
Soumettre, en fait, je n'ai pas vraiment de questions à poser à monsieur Roussel, mais j'aurais plutôt un constat. Je voudrais lui parler d'un souci que nous avons, nous, dans le département. Alors, j'habite à côté de Perpignan, on est frontalier avec l'Espagne. Et donc, on subit de plein fouet au quotidien les concurrences déloyales. Mais surtout, c'est un rapport avec l'écologie, en fait. Moi, je ne comprends pas comment les écologistes tapent sur nos agriculteurs parce qu'ils utilisent un petit peu de désherbant. Nos petits agriculteurs, je parle, on a beaucoup de petits agriculteurs chez nous. Je ne comprends pas comment ils tapent sur les gens qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler mais n'ont pas les moyens de la changer. Et pourquoi, moi je ne comprends pas pourquoi ces ayatollahs de l'écologie ne sont pas tous les jours à la frontière espagnole au Pertus pour empêcher les 15 000 à 20 000 camions, mais c'est pas un faux chiffre, qui passent à la frontière tous les jours et qui importent en France et en Europe des produits, des fruits et des légumes marocains et espagnols bourrés de pesticides.
Bon, alors c'est un constat plus que, et Nathalie, plus qu'une question, mais il peut vous répondre évidemment sur cette préoccupation majeure en fait.
Mais je partage mille fois ce que vient de dire madame. Oui. Je suis moi aussi député d'une circonscription frontalière avec la Belgique et je vois la même chose de mon côté et les agriculteurs de chez moi se plaignent de la même manière. Elle a mille fois raison. Comment ça se fait que notre pays accepte d'ouvrir ses frontières à des produits agricoles qui ne sont pas produits avec les mêmes exigences phytosanitaires que l'on impose à nos agriculteurs. Et donc, la moindre des choses, c'est où les produits, les pesticides sont mauvais, et je le dis, mais ils sont mauvais pour tous, y compris pour des produits qui viennent d'Espagne, de Belgique ou d'ailleurs, ou alors... Eh bien, ils sont pas mauvais. Et donc, si on les accepte en provenance du Maroc ou d'ailleurs, eh bien, on accepte de les utiliser en France. Et donc, moi, je suis pour avoir une réglementation stricte, ferme, que l'on puisse accompagner nos agriculteurs pour transformer leur mode de production. Mais dans le parallèle, on n'accepte pas l'importation de produits qui viennent concurrencer notre agriculture française, mais qui, en plus, seraient avec des produits nocifs pour la santé. Il faut être cohérent.
Merci Fabien Roussel d'avoir partagé ce moment et d'avoir répondu à toutes nos questions. Secrétaire national du PC et candidat à l'élection présidentielle, on verra si d'ici là...
Je serai en Corse ce soir fais un meeting à Ajaccio et donc j'invite mes amis corses à venir passer une belle soirée.
Le candidat, on l'a vu, des territoires, des provinces, c'est ce que vous avez dit ce matin, vous voulez déparisianer, c'est pas facile à dire.
Revitaliser la France, soyons positifs, revitaliser
la France des jours heureux,
la France rurale.
Merci. Dans un instant, en fait, le débrief. Et puis Marc Andevelde, qui sera avec nous tout à l'heure, qui a écrit « Est-ce que la France est sous emprise ?» Sous emprise étrangère, il sera avec nous. C'est lui qui avait écrit, vous vous souvenez, « L'ambigu Monsieur Macron ». Marc Andevelde avec nous dans un instant.
À tout de suite.